Le Festival des Inouïs, c'est aussi des stages proposés à de futurs musiciens aguerris pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances musicales auprès de professionnels souvent enseignants dans des conservatoires. Des répétitions dans l'optique de restitution publique ont lieu au lycée Robespierre et c'est là que Damien, bénévole de l'association Musique en Roue Libre, et moi-même avons rencontré Gaël et Éloi en stage de percussion. Avant de les retrouver en interview, ils nous ont accordé un intermède musical au marimba, un instrument de la famille des xylophones à résonateur africain qui s'est répandu dans certains pays de l'Amérique latine.
Je m'appelle Éloin et j'ai 12 ans et demi.
Je m'appelle Gaëlle et j'ai 11 ans.
Alors vous venez de nous interpréter un petit morceau hein, qui s'appelle Beliebte Annen. C'est une polka donc de Johann Strauss. Est-ce que c'est un morceau qui fait partie du répertoire du stage ou pas du tout?
Non, c'est pas un morceau qui... Je l'avais fait déjà avant au conservatoire.
Tu fais partie du conservatoire depuis combien de temps?
Depuis 5 ans.
Et toi?
J'ai commencé la percussion à ma deuxième année de solfège. Je vais rentrer dans ma sixième année de solfège, mais ça va être ma quatrième année de percussion.
Vous venez de jouer un morceau hein, sur un instrument qui s'appelle le marimba. Qui peut m'expliquer un petit peu ce que c'est que cet instrument?
C'est un clavier avec des tubes en métal, je crois, en bas, où il y a des lames en bois. Et si c'est plus grave, le tube en bas est plus long et plus gros.
D'accord, donc la différence entre un marimba et un xylophone, c'est quoi?
La taille, et aussi dans un marimba on peut jouer plus grave parce que les lames elles sont plus grosses et plus larges.
D'accord, et ce qu'on entend là en fond sonore c'est quoi exactement? C'est un marimba ou un xylophone?
Vibraphone.
Un vibraphone, ok.
Et on a une pédale pour que le son il sonne plus longtemps.
Alors il y a combien de temps que vous jouez du marimba ou du xylophone?
Depuis la première année.
C'est-à-dire
5 ans.
Et toi?
Ça va être ma quatrième année où je vais jouer.
Comment avez-vous découvert le stage ici? Comment vous êtes venu?
En fait... Parce que, en fait, Sylvie Reinhardt, celle qui fait le cours avec Emmanuel Séjourné, c'était notre ancienne prof de percussion dans le conservatoire. Et du coup, on a découvert ça et vu qu'on était ensemble, on est venus.
Qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans ce genre de percussion, marimba, xylophone, vibraphone, etc.?
Ça joue avec des baguettes, contrairement aux autres. Tu peux en jouer plein de temps, alors que... La trompette, à un moment, il y a tes lèvres qui vont... Tu ne pourras plus jouer.
Pourquoi, tu jouais de la trompette avant?
Non, c'est mon frère, mais on faisait Charlot ensemble, là. Et à un moment, il ne pouvait plus jouer parce qu'il avait trop joué, donc...
Et toi?
Moi, j'aime bien le son que ça fait quand ça résonne dans la salle. Et j'aime bien le genre d'instrument, comment c'est construit, tout ça.
Parce que c'est un instrument qui entre, il y a des baguettes, donc c'est un instrument de percussion, mais en même temps c'est un instrument aussi qui a une configuration un peu comme le piano.
Et en fait c'est plus, la percussion, il n'y a pas vraiment un son défini, et alors que dans ça il y a des notes, comme les timbales, sauf que là c'est toutes les notes.
Aussi c'est plus dur parce que le piano c'est les mêmes écarts entre les touches, et alors que les marimbas et xylophones et ça, chaque xylophone ou marimba, ils n'ont pas les mêmes écarts, donc quand tu t'habitues à un xylophone, par exemple celui du conservatoire, il n'est pas pareil que le marimba qu'on a joué ici.
Il y a des partitions spécialement écrites pour marimba, vibraphone, xylophone, ou c'est un peu les mêmes partitions que pour tous les autres musiciens?
Pour le xylophone et le marimba, c'est un petit peu pareil. Sauf que pour le vibraphone, il y a des partitions avec des pédales, parce qu'il y a des pédales aussi.
Et aussi pour le marimba, c'est plus grave, du coup ça fait plus les basses comme la contrebasse, d'autres trucs graves.
Est-ce que ces percussions sont plutôt des instruments solistes ou vraiment des instruments d'orchestre? Et vous, qu'est-ce que vous avez déjà joué, plutôt en orchestre ou plutôt en solo?
Plutôt en orchestre, parce que, enfin, ça dépend, parce qu'il y a l'ensemble de percussions. Enfin, moi, d'habitude, je joue les claviers en duo ou trio et en orchestre, mais ça peut jouer tout seul aussi.
Moi, en fait, je joue plus en orchestre parce qu'en orchestre, je fais plus des claviers. Et en percussion, je fais plein d'instruments comme batterie. Et en orchestre, ça sonne mieux, je trouve, que tout seul.
D'accord, donc c'est vraiment un stage de percussion au sens large du terme. C'est-à-dire que vous utilisez aussi d'autres instruments que le xylo et le marimba. Alors, quels autres instruments vous pratiquez en percussion?
De la batterie, des timbales, des espèces de gros tambours où on tape dessus et ça fait un gros son. Après, il y a plein de petites percussions comme des bongos, des petits tambours, des maracas. Et des choses dans le genre, et des claves.
Quelle est la percussion qui vous plaît le plus?
Il y en a deux. J'aime bien le marimba, c'est grave et on peut jouer en plein d'octaves différents, plein de notes aiguës et graves, et ça sonne bien. Et j'aime bien la batterie, c'est bien pour la rythmique, tout ça.
Et toi?
Moi j'aime tous les claviers, et aussi j'aime bien le 4 baguettes, parce que j'ai commencé à faire du 4 baguettes cette année. J'aime un petit peu les timbales aussi.
Est-ce que vous savez combien d'années il faut pour justement avoir un niveau de percussionniste justement assez élevé?
9 ans, 8-9 ans. Être au deuxième cycle, t'arrives bien à maîtriser, on arrive bien à maîtriser les instruments. On peut plus improviser et connaître bien les instruments.
Au début du troisième cycle, tu commences à faire des morceaux compliqués. À partir du troisième cycle, tu deviens bon, enfin vraiment... Enfin, après, ça dépend combien d'heures tu joues par jour ou minute. Enfin.
Combien de temps vous entraînez par jour?
Moi, je suis dans une école spéciale où j'ai école que l'après-midi pour travailler la musique le matin. Donc, je joue à peu près 45 minutes, une heure.
D'accord. Et toi?
Moi, par jour, du coup, je suis dans un collège normal. Et en fait... je travaille à peu près entre 20 et 40 minutes par jour. D'accord. Et il y a des jours en vacances où je travaille pas, parce que je suis en vacances.
Et toi, ton école spéciale, c'est quoi exactement?
Ça s'appelle Rognoni, c'est dans le 5e arrondissement de Paris.
C'est quoi comme école?
C'est une école-collège, enfin, il y a CM1, CM2 collège. Et là, je viens de passer au collège avec une audition.
Alors, le dispositif dont parle Gaël, c'est une classe CHAM, donc classe à horaire aménagé musique. Et on en a sur Arras aussi.
D'accord, merci de cette précision. Dernière question, ce stage, vous en êtes arrivé presque à la fin, ce qui vous a permis quand même de vous perfectionner. Est-ce que vous avez trouvé des choses plutôt intéressantes?
J'ai bien aimé des choses, mais il y a des choses que j'ai pas trop aimé aussi. Parce que, en fait, en morceaux d'ensemble, on fait des morceaux plutôt durs, donc nous, c'est dur, donc... On fait soit des maracas, des claves, des accessoires, enfin voilà, donc c'est assez ennuyeux après, quand on fait ça dans tous les morceaux.
Moi, je sais pas si j'aime bien ça, mais j'ai plutôt appris la technique, les trucs des poignets, parce qu'en fait, quand on en fait chaque jour, on trouve qu'on est plus fort et on arrive mieux à jouer tout en réfléchissant pas, quoi. Et ce que j'ai bien aimé dans le stage, c'est que c'était varié, on faisait des trucs différents, mais j'ai préféré quand même en individuel parce que, pareil que Gaël, en ensemble, on fait, même si les autres, c'est bien ce qu'ils font, nous, en fait, on est un peu, même pas en dehors, mais on fait d'autres choses, même si ça va bien avec, c'est un peu lassant parce qu'on fait toujours les mêmes choses ou les mêmes rythmiques sur quelques instruments, mais plus petits, qui sonnent moins bien, moins gros.
Là, vous répétez dans un gymnase qui résonne énormément. Vous allez jouer devant le théâtre, donc là où ce sera en plein air, où ça résonne pas beaucoup. Est-ce que l'acoustique, c'est vachement important pour un xylophone, un marimba, ou ben finalement c'est pas trop grave, on s'adapte.
Bah, y a Sylvie aussi qui nous a parlé de ça, qu'on devrait taper plus fort pour qu'on entende mieux, parce que là on est dans un gymnase. Donc ça sonne beaucoup.
Oui, on devra taper plus fort, montrer plus qu'on est là, faire plus bouger, faire des mouvements, parce que pour attirer les gens et qu'ils regardent au lieu de... Là, on est dans un gymnase, mais ce qui est pas bien aussi dans un gymnase, c'est que ça fait comme si on rebondissait quand on jouait pas et ça faisait de l'écho. Et du coup, c'est bizarre.
Les élèves qui pratiquent la flûte traversière sont aussi à l'honneur dans l'académie et nous avons reçu Damien et moi dans notre studio mobile à l'hôtel de Guine, Clarisse, Marlise et Louis pour une interview juste après un aperçu live issu de 3 mouvements de la sonate de Quantz qu'on écoute tout de suite. Thank you.
On vient d'accueillir Clarisse, Marlise et Louis, qui sont trois flûtistes, et qui viennent de nous jouer trois mouvements de la sonate de Quantz pour trois flûtes en ré majeur. Comment est-ce que vous en êtes venu à monter ce trio ?
Donc on est ici en stage instrumental. On a eu Roy Amott comme prof, qui remplace Sophie Dessay. Et en fait, il se trouve que comme il remplace et qu'il est venu un peu au dernier moment, il a dû partir un peu plus tôt. Et en fait, du coup, nous, on s'est dit, c'est dommage que nous, on n'ait plus de cours, qu'on soit du coup tout seul. Donc en fait, j'ai proposé à Clarisse et Louis de monter un petit ensemble. Et il y a aussi dans la classe Lilian et Lise. Et donc du coup, on a aussi monté un quatuor avec eux deux en plus. Donc voilà, on l'a monté donc en quelques jours, tout seul, en imprimant les partitions,
comme des grands.
Tout ça.
Comme des grands, c'est ça.
Et en fait, on a eu l'aide juste cet après-midi d'une heure et demie par Florence Duquesnois, qui est aussi prof de flûte en région parisienne et qui a eu la gentillesse de nous aider pour monter ce trio et le quatuor un petit peu aussi.
On va revenir un peu plus sur chacun d'entre vous. Comment est-ce que vous avez découvert la flûte, Clarisse ?
Eh bien, c'était assez tôt, plutôt comme la plupart des gens, en fait, en conservatoire, en école de musique, on est censé commencer un instrument à 7 ans, c'est l'âge minimum. Donc en fait, quand j'avais 6 ans, je faisais partie d'une classe d'éveil dans mon conservatoire et j'avais entendu l'instrument qui avait été joué au concert lors des présentations d'instruments, entre autres. Et forcément, le timbre m'avait touchée, donc forcément, je me suis dirigée tout de suite vers cet instrument qui m'a touchée vraiment par son timbre.
Et tu en fais depuis combien de temps ?
Alors maintenant, ça va faire à peu près 13 ans, 14 ans, c'est ça, oui. Calculez bien, parce qu'après, vous avez mon âge. C'est un peu ça. Donc oui, maintenant, j'ai eu mon diplôme d'études musicales l'année dernière. Et je suis sur Aubervilliers, donc j'ai quitté mon conservatoire natal à Orléans pour rentrer au conservatoire d'Aubervilliers. Voilà.
Pour envisager une carrière professionnelle.
Exactement, en tant que professeur de flûte.
Donc, et toi, Marie ?
Alors moi, j'ai commencé la musique toute petite et en fait, je ne pouvais pas commencer la flûte traversière à 6 ans quand on commençait, nous, les instruments. Donc du coup, j'ai commencé par la flûte à bec et c'est suite à un déménagement à 800 km du conservatoire où j'étais avant que la flûte à bec étant assez loin et je faisais aussi du clavecin. J'ai pu continuer qu'un seul des deux instruments baroques, le clavecin, pendant un an. Et à côté de ça, mes parents m'ont proposé de changer vers la flûte traversière, ce que je voulais déjà depuis quelques années. Donc j'ai commencé la flûte traversière à ce moment-là. Et après le bac, comme beaucoup de monde, j'ai un peu eu des moments de flossement où j'ai moins continué ou qu'en orchestre. Et il y a 5-6 ans, j'ai voulu reprendre des cours, d'abord dans un centre d'animation. Et après, en fait, je voudrais me reconvertir en tant que prof de flûte. Donc depuis 2 ans, je suis au conservatoire de Bobigny. Et là, je suis en 3e cycle.
Et donc ta pratique aussi du clavecin fait que tu diriges plutôt vers la musique baroque ou tu essayes de...
Disons que du coup j'ai une prédilection vers la musique baroque au sens où c'est ce qui me parle le plus musicalement parlant. Mm-hmm. D'où qu'à l'Aubat avant-hier j'ai joué de la musique classique mais plutôt proche du baroque que du contemporain. Mais après j'aimerais bien jouer de tout vu que la flûte traversière fait vraiment toutes les périodes et voilà.
Et Louis ?
Alors j'ai commencé la flûte vers 8 ans. Et je pense qu'en fait, c'était parce que j'avais dû entendre des enregistrements d'un groupe, d'une chorale d'enfants de ma ville, qui s'appelle Les Maximum, hein, qui font des chants engagés. Et à mon avis, c'est parce qu'il y avait des solos de flûte dedans, mais c'était plutôt inconscient, je pense, sur le choix de la flûte. Mes parents m'avaient dit, si je voulais, je pouvais choisir un instrument de musique, et c'était soit la flûte, soit la batterie. Donc du coup, la batterie faisant un peu moins de bruit pour les voisins, on a fait la flûte. Non, enfin, voilà, vous avez compris, hein. La flûte, qui est quand même beaucoup plus agréable, on va dire, et plus audible pour le voisinage.
Sauf quand on débute.
Ça fait toujours...
Ou même quand on est grand et qu'on fait 15 fois les mêmes traits.
On préfère quand même le flûte à la batterie, je pense, quand même. C'est oui. Au niveau de tout.
Oui, et puis avec un enfant, c'est sûr que voilà. La batterie, tout de suite, on a le réflexe de taper, alors
c'est
que
ça.
Pour la flûte, il faut un petit peu plus travailler pour en
c'est
sortir
ça.
Un
voilà.
Son.
Et donc du coup, ça fait 13 ans que je fais de la flûte. J'ai eu mon diplôme d'études musicales aussi il y a quelques mois. Et ça fait 6 mois que j'enseigne et je vais en faire mon avenir, si je peux.
Et du coup, tu me parlais de ta ville où tu entends...
Oui, alors je suis de Brest en fait.
Alors Brest, quand tu dis chant engagé, c'est quoi exactement
C'est à propos de n'importe quel sujet, on va dire, qui est fâcheux. Donc la guerre, la violence... tout en fait. Il n'y a pas de, c'est très large quand même, mais c'est engagé, mais c'est au sens très large vraiment.
Et ben du coup, comme il y avait de la flûte traversaire, c'était pas le seul instrument dans ce.
Non, il y avait plein d'instruments, mais c'était celui qui avait parfois des petits solos et.
Comment on retranscrit ce militantisme, cet engagement au niveau de l'instrument ?
Au niveau de l'instrument, j'en ai aucune idée. C'était surtout au niveau des paroles qu'il y avait. Ça.
D'accord. C'est... donc vous venez de nous jouer un mouvement là, qui peut me parler un petit peu, enfin trois mouvements, pardon, si je ne me trompe pas, qui peut me parler un peu de cette œuvre justement.
Moi j'avoue que je ne la connaissais pas. Avant.
Quelques mots peut-être
C'est Marlise qui nous l'a fait découvrir en fait.
Donc, Merci.
Donc c'est Marlise qui va nous en parler.
En fait c'est Quantz, qui est un compositeur de l'époque classique, qui, baroque et classique, il est entre les deux.
Baroque tardif.
Ouais, voilà.
Pour nos auditeurs, donc la période baroque est la période qui précède la période classique.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc dans la période baroque, on retrouve beaucoup d'instruments qui en fait sont les ancêtres des instruments qu'on a l'habitude d'entendre dans la période classique. Par exemple, le clavecin, c'est l'ancêtre du piano.
Oui. Exactement. Et aussi souvent dans la période baroque, ils mettaient dessus, ça pouvait être joué par des flûtes, des violons, c'était interchangeable, oui. Beaucoup plus que dans les périodes plus récentes où chaque instrument va être vraiment identifié parce qu'on a accès à tous les instruments, enfin, et à tout type de musiciens, ce qui était peut-être un peu moins le cas à l'époque. Ils s'interchangeaient plus, ils jouaient ce qu'ils voulaient. Là, c'est vraiment pour trois flûtes.
Et Quantz, c'était un musicien, donc, on l'a dit, baroque, plutôt fin de l'époque baroque. C'était un grand flûtiste, en fait, de cette époque, très virtuose, très apprécié. Et il a écrit, du coup, beaucoup, beaucoup de choses pour la flûte, des trios, beaucoup des caprices, enfin, vraiment
des méthodes
d'œuvres,
aussi d'enseignement.
Des méthodes,
de l'époque.
Exactement, qui ont beaucoup fait avancer cet instrument, en fait, à cette période.
Ah, voilà, non, c'est bien pour ce rappel historique.
Toujours important après, de savoir. Après, ça reste une sonate. Alors, d'habitude, les sonates font 3, 4 mouvements. Celle-là, on fait 5.
En fait, c'est une suite de danse. Ouais. Donc, à cette époque, les sonates, c'est pas tout à fait la structure des sonates classiques. Donc, voilà, il y a plusieurs mouvements. Là, on vous en a joué 3. Il me semble qu'il y en a 6 en tout.
Il y a un menu en plus.
Pardon, 5.
Vous avez chacun une partition différente, vous avez la même et puis vous avez des transcriptions spécifiques pour chaque, parce que vous ne jouez pas la même chose.
Non, on a chacun notre voix.
Voilà, et pouvez-vous nous expliquer un petit peu justement ces rôles ?
Alors, en fait là on a chacun notre voix et sur notre partition, on pourrait avoir soit le conducteur avec les trois voix de chacun, mais là on a chacun vraiment que la nôtre. Après, au niveau de la construction, il y a souvent dans cette partition-là, il y a eu pas mal de dialogues, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Clarisse, qui jouait la flûte 1, était la soliste, et Louis, qui jouait la flûte 3, était le bassiste, enfin, qui avait le rôle de basse. Il l'avait quand même relativement plus souvent que Clarisse et moi, mais il avait quand même ses petits thèmes à faire ressortir, et on était souvent par deux.
Oui, vous avez pu entendre aussi parfois des petits moments de questions-réponses ou des petits moments où on se répondait les uns les autres, parfois pas avec la même personne. C'est assez intéressant dans cette musique-là. Et puis justement, chacun a un peu un rôle de soliste. C'est ça qui est intéressant. Parce que tout le monde ne fasse pas tout le temps la même chose. Quoi.
C'est vraiment un dialogue en fait, accompagné voilà. Par un troisième flûtiste, on va dire.
Alors Louis, tu as donné l'exemple de ta volonté de faire de la batterie.
J'en fais en fait.
Ah, j'en fais, bah, très bien. Donc, est-ce que aussi tu ramènes ta flûte dans des genres de musique où elle n'est pas attendue ?
Alors, j'ai fait partie d'un groupe de rock psychédélique où j'étais batteur, du coup. Et bon, j'ai arrêté pour la flûte, hein, pour en consacrer à mes études. Mais oui, on l'avait intégré dedans et on rajoutait du coup quelques effets avec de la reverb fait après avec des pédales. Et donc ouais, c'était bon, on l'a mis que dans un seul morceau par contre. C'était la flûte qui terminait ce morceau, mais c'était vraiment super. Et par contre, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que pour mon DVM cette année, j'ai eu un temps de projet libre et j'ai arrangé un morceau de métal pour flûte traversière et j'avais placé un micro dedans et j'ai envoyé la distorsion dedans et ça ressortait dans les enceintes dans l'auditorium.
Alors c'est quoi les morceaux ?
C'était I Am the Abyss de Shilma Gognar.
D'accord, et le morceau, est-ce qu'on peut encore retrouver ton...
Ce morceau, on pourra pas... Alors, la version que j'ai faite, on peut pas la retrouver sur le net, du coup, mais on peut trouver la version d'origine du groupe.
Et ton morceau de rock psychédélique, terminé par la flûte ?
Alors, ça s'appelle Améthyste Déserte, et c'est de Psychoship.
Et vous ?
Alors moi, à part la flûte, enfin ça fait partie de mes études de flûte aussi, mais ça s'éloigne un peu du classique, je fais partie d'un orchestre de jeux vidéo en fait, spécialisé en musique de jeux vidéo, qui s'appelle Pixelophonia, basé sur Paris. Et là vous pouvez retrouver sur YouTube, la chaîne YouTube Pixelophonia. Donc on fait de tout, Pokémon, Zelda, on passe vraiment par tous les grands classiques, Mario, etc.
On joue,
ah mais là vous êtes fan, je vous jure c'est génial. Tous les arrangements sont, et je dis pas ça, enfin je suis pas très objective peut-être, mais tous les arrangements sont faits maison par nos écrituristes du CNSM, comme on les appelle, donc, c'est-à-dire des apprentis compositeurs, arrangeurs, qui arrangent du coup tout à leur sauce, entre guillemets. Donc vous aurez des versions vraiment que vous n'avez jamais entendues nulle part, et c'est ce qui a beaucoup plu, entre autres, on a joué à Animest, Polymanga, Geekopolis, voilà, donc sur de grandes scènes quand même. Donc je suis ravie de faire partie de cette expérience-là, et vraiment je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment, ça vaut le coup.
Tu peux nous rappeler le nom ?
Pixelophonia, donc Pixelophonia, ouais. Voilà.
D'accord, très bien.
Chaîne YouTube.
Et donc, Maris... Est-ce que tu amènes la flûte traversière dans d'autres genres que le baroque ou le classique ?
Ça m'est arrivé déjà. Alors, au sein d'orchestres d'harmonie, on a eu l'occasion de jouer avec un groupe du Valenciennois qui s'appelait Les Arts Martiens quand je vivais à Valenciennes. En fait, j'ai vécu 2 ans là-bas. On avait joué donc avec eux, en fait. Donc, eux, ils avaient à ce moment-là clavier, chant, trombone et guitare basse. Et nous, on les avait accompagnés sur certaines chansons. On avait donc fait un concert avec eux, et puis après, avec l'ensemble des harmonies avec lesquelles ils avaient participé, on avait fait un grand concert commun sur un ancien terrain minier. Et sinon, à côté de ça, depuis quelques mois, il y a un orchestre qui s'est monté à Paris, vraiment avec tous les niveaux, professionnels, amateurs, débutants, qui s'appelle l'Orchestre Debout, qui est lié à l'action de la Nuit Debout, qui est au départ contre la loi du travail, mais aussi contre tout ce qui, dans la société, commence à moins bien aller, on va dire. Et au sein de cet orchestre, on a l'occasion de jouer justement des œuvres surtout pas classiques. On en joue aussi, mais pour amener la musique classique à tout le monde, parce que c'est sur la place de la République et du coup, c'est assez accessible. Mais on a aussi joué des arrangements faits par les arrangeurs de l'orchestre, style Bella Ciao. La prochaine fois, on va faire Le Déserteur. Donc voilà, à chaque concert, on fait un programme différent qui mélange la musique, le chant, éventuellement la danse. On a eu une fois des danseurs avec nous, sinon il y a la musique, le chant, et puis surtout des œuvres classiques et aussi autres que classiques. Quoi.
Alors du coup, c'est Orchestre Debout, c'est ça ?
C'est l'Orchestre Debout, ouais. Donc on a une page Facebook, et on a un wiki aussi pour les personnes qui ne sont pas très réseaux sociaux. Et sur la page, on peut voir les prochains programmes, les prochaines sessions, enfin c'est à chaque fois au coup par coup bien entendu. Vu que c'est lié au mouvement de la Nuit Debout, qui lui-même est incertain dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, là maintenant, dire si le mouvement de Nuit Debout va continuer jusqu'en janvier ou s'il va s'arrêter dans les prochains mois. On a eu des doutes au mois de juin, d'ailleurs, si on allait pouvoir continuer ou pas, avec la Coupe du Monde de foot. Et puis, avec les dérives des manifestations aussi, malheureusement. Donc, du coup, la prochaine session est prévue pour le dimanche 4 septembre, après-midi. Donc que ce soit pour les musiciens qui ont envie de se joindre à nous, tout est disponible sur le net, les partitions. C'est à partir de 15h pour la répétition des musiciens et le concert est à 17h.
Ah bah oui, ça tombe bien parce que nous, Radio PFM, on rediffusait en direct hein, ce qui se passait avec Radio Debout. Puis il y a eu les vacances et puis on se demande si ça continue. Est-ce que Nuit Debout... Alors du coup, tu viens de nous donner un petit peu des nouvelles, justement.
Alors, il y a eu deux... au sein de l'Orchestre Debout, parce que je n'ai pas suivi tous les mouvements Nuit Debout avec les vacances scolaires, c'est un peu plus difficile pour moi aussi. Donc en fait, l'Orchestre Debout, on a fait une dernière session au début juillet. Malheureusement, sous la pluie, donc ça a été un peu compliqué à gérer avec les instruments, mais on a réussi à la mener jusqu'au bout. Avec l'aide de nombreuses personnes qui nous ont aidés à être protégées. On a fait une réunion au mois de juillet, et là, on prévoit une petite réunion nous-mêmes, entre nous, pour connaître la suite, sachant qu'on a un projet d'opéra. Alors, opéra au sens assez libre, c'est-à-dire qu'en fait, on veut monter un scénario à partir d'œuvres qu'on a soit déjà jouées, soit qu'on veut remonter pour la suite.
D'accord. Il y a une page Facebook donc pour vous suivre ?
Oui, il suffit de taper Orchestre Debout dans la recherche de Facebook et c'est forcément nous. Nous, on est les premiers. Il y a aussi un Orchestre Debout qui a été monté à Bruxelles. Donc eux, c'est Orchestre Debout BXL. Et après, il y a eu d'autres orchestres qui ont été montés plus ou moins éphémères dans d'autres villes de France. Mais là, je m'y connais un peu moins pour vous donner des précisions.
Ok, bah on suivra ça de très près.
Et puis on rediffusera Radio Debout dès qu'on aura un partenariat avec votre concert.
Bah avec plaisir, je vais en parler aux autres.
Pourquoi pas faire une interview en direct, hein, puisque c'est possible.
Ah, moi, je serai sur Paris aussi.
On va garder le contact, comme ça, on pourra, voilà, bah, on pourra relayer les informations. Merci beaucoup d'être passé donc, par les studios, hein, pour
merci
nous parler un petit peu.
Merci à vous.
Puis on passe un petit message aussi, du coup. J'en profite à la harpiste Aurélie Bouchard, hein, qui fait partie du trio RIS, qui veut absolument jouer de la harpe dans un groupe de métal. Du coup, comme Louis, lui, a amené la flûte traversière, pourquoi pas, on ne sait jamais, il peut y avoir des connexions. Aurélie, si tu nous écoutes, voilà.
Merci. Merci.
C'était un sujet en compagnie de stagiaires de l'Académie des Inouïs dans le cadre de la 10e édition du festival Les Inouïs, organisé par l'association Musique en Roue Libre.